journal, Marion Lourd, bonjour.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans le 13-14 pour l'information à la mi-journée, à la une aujourd'hui. La terre s'ouvre et ensevelit maisons et habitants sous la pression de l'eau. Scène de cauchemar dans l'ouest de l'Allemagne après deux jours de pluie diluvienne. 103 morts au moins dans le pays. Nous y serons 15 morts aussi en Belgique où la décrue commence et où les secours s'activent. Déluge de pluie, la faute à qui? Le président allemand appelle à lutter contre le réchauffement climatique. Est-il vraiment en cause? Question posée à notre invité Samuel Morin. Il dirige le Centre National de Recherche Météo France, CNRS. Une autre question dans ce journal. Éric Dupond-Moretti a-t-il utilisé ses nouvelles fonctions de ministre pour régler ses comptes d'ex-avocat? Les magistrats de la Cour de justice de la République interrogent le garde des Sceaux. Arrivé ce matin, dans quel état d'esprit?
Serein, mais particulièrement déterminé. Le ministre de la Justice, il n'est pas au-dessus des lois, mais il n'est pas non plus en dessous. Je vous souhaite une excellente journée.
On verra à quelles questions doit répondre le ministre, autrefois figure iconique du gouvernement Castex. Ça y est, il revient, le masque en extérieur, de retour dans les Pyrénées-Orientales pour contrer le variant Delta du coronavirus. Le virus galope à nouveau, explosion des cas promise et il bouleverse nos vacances, comme celle d'Inès qui a renoncé à son voyage en Tunisie.
On a peur en fait. Puis je sais que là-bas, ils n'ont peut-être pas pris conscience de l'ampleur de ce virus. Quoi qu'il en soit, je ne profiterai pas si je partais, donc je partirai certainement un peu plus tard.
Reportage à venir et puis à 13h30, un grand bol d'air avant le week-end. Nous serons à Cannes pour le festival. Nous écouterons du Charles Aznavour pour la 200e édition de la chronique C'est une chanson. Et nous partirons sur les chemins, sentiers de plus en plus peuplés, la randonnée, sport à la mode et loisirs préférés des Français. Avec nous, la présidente de la Fédération de randonnée et le président du Parc national des Calanques. Vos questions 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Bienvenue dans le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Le choc des chiffres, 118 morts au moins des intempéries en Europe, dont 103 au moins dans l'ouest de l'Allemagne. Le choc des images, ces rues transformées en rivières, ces maisons effondrées, emportées par les eaux. Et à Erfstadt-Blessem, en Rhénanie du Nord, le sol qui s'est littéralement ouvert. Glissement de terrain dans cette ville proche de Cologne. Sur place pour France Inter, Sébastien Baer, l'accident a forcément fait plusieurs victimes. La scène est impressionnante.
Oui, la vision est absolument saisissante, effrayante. Au milieu du village d'Erfstadt-Blessem, la route s'est effondrée et a formé un cratère de 15, peut-être 20 mètres de profondeur. Impossible de distinguer, de savoir sur quelle longueur le bitume a disparu, englouti par l'eau. Mais de là où je me trouve, je vois des débris échappés des maisons, des habitations qu'il y a quelques heures encore étaient occupées. Il y a les toitures, des briques, des voitures jetées les unes contre les autres, des pans de tôle. C'est une scène absolument cauchemardesque dans ce village situé au sud de Cologne. Évidemment, les secours sont sur place. D'autres arrivent encore, les pompiers, les hommes grenouilles, des bateaux. Il y a aussi des hélicoptères, un balai d'hélicoptères. On entend d'ailleurs le bruit des rotors quasiment en permanence au-dessus de nos têtes. L'accès est particulièrement compliqué, hasardeux. Il faut cheminer avec des bottes, traverser des passages d'eau profondes et brunâtres qui charrient de l'essence qui s'est échappée sans doute des réservoirs des véhicules échoués. Impossible de savoir s'il y a des victimes, mais la communauté de communes de Cologne a fait savoir tout à l'heure que plusieurs personnes étaient portées disparues.
Sébastien Baer, dans l'ouest de l'Allemagne, pour France Inter, plus d'un millier de personnes en tout sont portées disparues. En Belgique, là, on dénombre une quinzaine de morts. La Meuse a fait très peur aux habitants, mais la décrue s'amorce. Les secours sont au travail. Ils ont reçu l'aide des pompiers français. Plusieurs quartiers restent sous l'eau et des habitants accueillis dans des centres de secours comme celui de Grivénier à Liège. C'est là qu'Angélique Boin a rencontré l'adjointe du bourgmestre de Liège, épuisée par ses 48 heures de déluge.
On a eu très peur hier soir que le pire arrive, c'est-à-dire un débordement de la Meuse dans le centre-ville, mais ça a été limité. Et pour le moment, ça a l'air de se stabiliser. Et donc on voit des personnes dont les familles cherchaient hier n'avaient pas de nouvelles arriver. Donc on imagine que les secours peuvent recommencer à reprendre à un rythme qui permet vraiment une assistance. C'est une aide et surtout de sortir les personnes des maisons qui sont inondées. Il y a des gens qui sont chez eux au deuxième étage sans électricité, sans boire et sans manger depuis deux jours.
Comment vous vous sentez ?
Je vous dis, un peu fatiguée, mais surtout portée par l'engagement des uns et par la solidarité des autres. Il y a des gens qui apportent des vêtements. On a rien qu'en deux heures reçu 600 inscriptions de propositions d'aide, que ce soit pour transporter des gens, les accueillir, servir des repas. Il y a des gens qui n'ont rien, qui sont partis sans papier, évidemment, sans clé, sans GSM. Voilà, donc la situation est vraiment très compliquée.
L'adjointe du bourgmestre de Liège en Belgique avec la correspondante de France Inter en Belgique, Angélique Boin. En France, situation bien moins dramatique, mais toujours des communes inondées dans le Bas-Rhin, les Ardennes, le Haut-Rhin, la Moselle. 11 départements du Nord et de l'Est restent en vigilance orange. On fait un point complet dans la météo à la fin de ce journal. Alors, pourquoi ce déchaînement des éléments en plein mois de juillet? Par endroits, un mois de pluie tombée en un jour seulement. Le président allemand a sa réponse. Il exhorte à lutter résolument contre le changement climatique. Le réchauffement, c'est aussi le coupable pointé par Philippe Lamberts, eurodéputé belge du groupe des Verts.
Je crois que ne pas le voir, c'est être aveugle et sourd. Les scientifiques du GIEC nous annoncent depuis plus d'une décennie maintenant une abondance d'événements extrêmes, sécheresse extrême, précipitations extrêmes, vents extrêmes. Et il n'y a pas de raison que l'Europe soit isolée ou protégée de ce genre de phénomène. Et c'est ce que nous observons maintenant en Belgique, en Allemagne, au Grand-Duché de Luxembourg. Voilà. L'an dernier, c'était plutôt une grosse sécheresse. Cette année-ci, ce sont des précipitations abondantes.
L'eurodéputé Philippe Lamberts avec Amélie Perrier pour France Inter. Le réchauffement climatique en cause ou non? On pose la question à Samuel Morin, chercheur en météo et climat. Il dirige le Centre national de recherche Météo France, CNRS. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut directement attribuer ces catastrophes au réchauffement climatique?
On sait que le changement climatique modifie déjà les caractéristiques des phénomènes météorologiques et dans une certaine mesure, le phénomène que l'on observe, il est tout à fait compatible avec notre compréhension de l'effet du changement climatique sur ces phénomènes météorologiques extrêmes, en particulier les précipitations. Et même si aujourd'hui, il n'y a pas d'études scientifiques qui permet de donner une quantification, c'est-à-dire à quel point la probabilité que cet épisode ait été renforcé par le changement climatique, on peut néanmoins déjà dire que ce phénomène-là a très certainement été accentué par le changement climatique.
C'est un phénomène météo qui est rare au mois de juillet?
Alors, on a un phénomène qui s'appelle une goutte froide, en fait, qui est une sorte de poche d'air relativement froid à moyenne altitude dans l'atmosphère, qui s'est déplacée assez doucement sur l'Europe de l'Ouest. C'est pas un phénomène qui est rarissime au mois de juin, au mois de juillet, c'est des choses qui arrivent. Ce qui est exceptionnel ici, c'est la quantité impressionnante de précipitations qui a été associée à cette circulation atmosphérique particulière.
Et qui pourrait avoir été donc, si je vous entends bien, augmentée par le réchauffement climatique.
En fait, on sait que sous l'influence du changement climatique, du réchauffement de l'atmosphère qui est constaté à travers le monde, l'atmosphère peut contenir plus de vapeur d'eau, plus d'humidité, et donc quand les circonstances atmosphériques sont favorables, eh bien, ça peut entraîner des cumuls de précipitations beaucoup plus forts que si on n'avait pas ce réchauffement de l'atmosphère.
On a l'impression que en Allemagne, en Belgique et même en France, on est un peu pris de court par ce phénomène. Il était prévisible malgré tout?
Alors, les phénomènes de précipitation, il y en a différents types. Ce qui est particulièrement difficile à prévoir, ce sont les orages. Alors, on sait prévoir les conditions qui sont favorables pour les orages, mais c'est très difficile de prévoir leur localisation. Là, en l'espèce, c'est un système de grande échelle. Hein. C'est vraiment, si vous regardez les images satellites, on voit vraiment un système tourbillonnaire au-dessus de l'Europe de l'Ouest et qui dont on savait à quelques jours d'échéance, justement, qu'il allait conduire à des phénomènes de précipitation très intenses. Donc, du point de vue de la prévision de ces événements, finalement, les prévisionnistes n'ont pas été surpris de voir arriver ce type de phénomène et les bulletins météorologiques, les systèmes de vigilance ou l'équivalent de la vigilance en Allemagne ou dans d'autres pays tenaient compte justement de ce type d'événement. Mais il ne suffit pas d'avoir une excellente prévision météorologique pour pouvoir s'adapter en temps réel à des phénomènes particulièrement intenses et aux conséquences dramatiques comme ça a été rappelé tout à l'heure.
Il faut être prêt sur le terrain, c'est ça que vous dites?
Ben, c'est-à-dire, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait d'une information au sujet d'un événement météorologique inédit, quelle est la capacité des autorités ou la capacité des citoyens ou des habitants de façon plus générale à faire face en fait à des cumuls de précipitations intenses et puis à des augmentations de niveau d'eau particulièrement rapides et forts dans un certain nombre de localités. Et donc effectivement, il y a un certain nombre d'informations sur la conduite à tenir en cas d'événement qui sont transmises, mais malheureusement aujourd'hui sans doute pas assez efficacement, et puis il y a quelque part des transformations en profondeur en fait des conséquences de ce type d'événements. L'intensification des événements de précipitation a des conséquences sur l'intensification de leurs conséquences, de la gravité de ce qui en résulte, et donc quelque part, bah oui, ça remet en cause la façon dont on tient compte de ces informations-là pour prendre les mesures pour limiter les dégâts au maximum.
Et voilà justement, comment est-ce qu'on fait pour prévenir ces intempéries ou bien leurs conséquences?
Alors prévenir les intempéries, justement, c'est quelque chose qui est relativement difficile, même totalement impossible. Et on sait que pour les prochaines décennies, le changement climatique est déjà bien engagé et va se poursuivre. Et donc on s'attend à ce que ces phénomènes continuent de se produire régulièrement. Alors pas forcément plus souvent, mais quand ils se produiront avec des intensités croissantes. Et donc quelque part, des phénomènes qui deviendront de plus en plus récurrents sur des phénomènes intenses et rares. Si on veut limiter l'ampleur de ces changements pour les décennies de la deuxième moitié du XXIe siècle, eh bien la seule solution, c'est de réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre, puisque c'est la seule façon que l'on a au niveau de l'humanité tout entière d'enrayer les émissions et donc le changement climatique qui se poursuit. Ensuite, ça c'est ce qu'on s'appelle l'atténuation, comment on réduit l'ampleur de ces changements, et puis l'adaptation, comment on fait face à ces changements irréversibles de toute façon pour les prochaines décennies.
Merci Samuel Morin, chercheur en météo et climat. Merci de nous avoir répondu sur France Inter. Trois magistrats, trois avocats, c'est une première pour un ministre de la Justice en exercice. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, répond aujourd'hui aux questions des magistrats de la Cour de Justice de la République. En cause, deux possibles conflits d'intérêts entre ses activités d'avocat, autrefois, et son rôle, désormais, au sein du gouvernement. Bonjour Corinne Audouin.
Bonjour Marion.
On l'entendait en titre, le ministre est arrivé serein ce matin. À quelles questions va-t-il devoir répondre?
Alors les magistrats cherchent à savoir si Éric Dupond-Moretti a utilisé ses prérogatives de ministre pour servir ses intérêts personnel. Deux dossiers sont au centre de l'accusation. D'abord, l'enquête administrative demandée contre trois magistrats du parquet national financier. On est alors en septembre 2020. Éric Dupond-Moretti est garde des Sceaux depuis deux mois. Il reçoit le rapport de l'inspection générale de la justice commandé par la ministre précédente sur les agissements du PNF en marge de l'affaire Bismuth. On a en effet découvert que le PNF avait fait éplucher les fadettes de plusieurs avocats pour identifier une taupe qui aurait informé Nicolas Sarkozy de sa mise sur écoute. Éric Dupond-Moretti avait alors dénoncé des méthodes de barbouze et porté plainte. Deux mois plus tard donc, devenu garde des Sceaux, il décide, après ce rapport de l'inspection qui n'avait relevé aucune illégalité, de déclencher une enquête administrative visant nommément trois magistrats. Deuxième affaire, une enquête disciplinaire demandée contre un ancien juge placé à Monaco, Édouard Levrault, avec qui Éric Dupond-Moretti avait eu aussi maille à partir, le qualifiant de juge cow-boy. Pour sa défense, le garde des Sceaux affirme qu'il a suivi l'avis de ses services sans rapport avec une vengeance personnelle.
Éric Dupond-Moretti, c'était une figure, une prise de guerre pour Emmanuel Macron. Il est passé d'un statut presque d'icône à celui d'objet de critique.
Oui, si on se projette un an en arrière, difficile d'imaginer que les relations allaient si vite se dégrader entre les magistrats et leur ministre de tutelle. On s'en souvient, l'Union syndicale des magistrats avait pris sa nomination comme une déclaration de guerre. La suite ne leur a pas tout à fait donné tort. La nomination d'une avocate à la tête de l'École nationale de la magistrature, à qui Éric Dupond-Moretti reproche une culture de l'entre-soi, puis le déclenchement des poursuites disciplinaires contre des magistrats, tout cela a creusé la fracture. Aujourd'hui, les syndicats de la profession estiment qu'il ne peut plus être leur interlocuteur. Compliqué quand on sait que le gouvernement a annoncé qu'il lançait à la rentrée des états généraux de la justice.
Corinne Audouin du service police-justice de France Inter, merci. On devrait donc savoir ce soir si Éric Dupond-Moretti est mis en examen. Le président de la République, pendant ce temps, et sur ses terres de vacances d'enfance à Bagnères-de-Bigorre. Visite de l'usine de matériel roulant CAF, le plan de relance au programme. Emmanuel Macron dans la ville de pèlerinage de Lourdes cet après-midi. Une première pour un chef de l'État sous la Ve République. Et peut-être un premier effet sur le terrain de l'épidémie de Covid. De plus en plus de dirigeants d'entreprises, notamment de la restauration, choisissent de mettre fin à leur activité selon le baromètre national des greffiers de tribunaux de commerce. 28% de plus par rapport à la même période l'an dernier. En tout cas, ça y est, il est là, et bien là, le coronavirus de retour avec le variant Delta. L'Agence européenne des maladies prévoit 5 fois plus de nouveaux cas d'ici deux semaines. Le nombre d'hospitalisations ne baisse plus à 7054 personnes en France aujourd'hui. 36 personnes sont entrées en réanimation sur les dernières 24 heures, 10 de plus qu'il y a une semaine. Le masque en extérieur fait son retour dans les Pyrénées-Orientales, partout sauf sur la plage. Consommation d'alcool interdite dans l'espace public. Et en Espagne, la justice vient de valider le rétablissement du couvre-feu. Et face à la protection du virus, la vaccination et l'incitation très forte que crée l'extension du pass sanitaire dès la semaine prochaine pour les lieux de loisirs, dès le mois d'août pour les centres commerciaux, les restaurants et les transports. Les salariés aussi devront retrousser leurs manches pour recevoir leurs piqûres, sauf à présenter régulièrement des tests PCR. Maxime Debs, ça c'est sur le papier, car encore faut-il le mettre en œuvre.
Jacques Ressel préside la FCD, la Fédération du commerce et de la distribution, qui défend les intérêts d'enseignes comme Decathlon, Carrefour ou encore Electro-Dépôt. Son message tient en 6 mots, il faut nous faciliter la vie.
Une des propositions que nous avons faites, c'est de permettre des tentes de vaccination, des camions de vaccination sur les parkings de nos magasins, de façon à permettre à tous nos salariés, pour lesquels ça va être une obligation pour pouvoir continuer à travailler, d'être vaccinés le plus rapidement possible.
Obligation qui, en l'état, selon l'avant-projet de loi, devrait incomber aux salariés en magasin, mais aussi à son employeur, qui devra s'assurer que ce dernier est en règle d'un point de vue sanitaire, avec le risque de cas de figure que personne ne souhaite envisager.
Puisque les salariés qui ne voudront pas se faire vacciner devront avoir un test tous les 2 jours. Et s'ils refusent de faire ce test tous les 2 jours, eh bien leur contrat de travail sera suspendu. C'est naturellement une vraie difficulté.
Difficulté qui pourrait aller jusqu'au licenciement. Si le projet de loi présenté à l'Assemblée la semaine prochaine n'évolue pas jusque-là, à partir du 30 août, le fait pour un salarié de ne plus pouvoir exercer pendant une période de plus de 2 mois pourra donner lieu à l'ouverture d'une procédure à son encontre.
Se vacciner, d'accord, mais encore faut-il trouver un rendez-vous. Depuis les annonces présidentielles, lundi, les délais s'allongent 17 jours en moyenne, plus long dans certains départements comme l'Ille-et-Vilaine, département qui détient le record avec 35 jours d'attente, soit pas de passe sanitaire avant la mi-septembre. Là, finie l'attente, les portes sont ouvertes depuis une vingtaine de minutes. La Dame de Fer reprenait du service ce matin à Paris. Après 8 mois de fermeture, jauge fixée à 50% de la capacité, 70 000 billets ont été vendus, dont la moitié à des touristes étrangers, annonce le président de la société qui exploite la Tour Eiffel. Une idée pour les vacances. Et puis à propos de vacances, si vous préférez la verdure et le grand air, la randonnée est à la mode, elle attire les foules. Le point sur ce phénomène, ses conséquences et les conseils aussi à 13h30 sur France Inter avec nos invités. Où que vous alliez, soyez en tout cas prévoyant, trafic chargé en vue. Vendredi, orange sur les routes dans le sens des départs et samedi, classé rouge. Impossible de partir et de revenir de Tunisie, en tout cas pour les non-vaccinés, sauf s'ils ont un motif impérieux et isolement obligatoire en France à l'arrivée. À partir d'aujourd'hui, le pays frappé de plein fouet par l'épidémie passe sur la liste rouge française. 100 de morts par jour, des hôpitaux débordés et côté français, des Tunisiens pris de court. Ils sont nombreux en effet à aller passer leurs vacances dans leur pays d'origine, Julie Paco, et se posent donc beaucoup de questions.
À la terrasse de ce restaurant tunisien au cœur de Paris, plusieurs habitués espèrent toujours pouvoir rejoindre la Tunisie cet été. Amine a un vol la semaine prochaine.
Je suis vacciné, donc je maintiens mon programme. Mes parents, ils sont là-bas, donc il y a ça aussi qui a compté. Ouais.
Est-ce que vous êtes prêt du coup à vous isoler en revenant ?
De toute façon, moi je fais beaucoup de télétravail, donc bon, ça pose pas de problème.
Mais faire du télétravail, impossible pour Faisal, le propriétaire du restaurant.
Je travaille, alors je peux pas être confiné après 10 jours là-bas ou 2 semaines en Tunisie. Après une semaine ici, confiné, ou 10 jours, c'est beaucoup. J'ai pas été l'année dernière et cette année, je voulais partir voir la famille, surtout ma mère, et j'ai pas pu, voilà. Ils sont très déçus.
Beaucoup ont ainsi renoncé, même vacciné, à l'instar d'Inès.
On a peur, en fait. D'autant plus que là, on a appris que entre les villes, c'est déjà fermé, c'est d'ores et déjà fermé. Puis je sais que là-bas, ils ont peut-être pas pris conscience de l'ampleur de ce virus. Beaucoup de gens ne portent pas le masque, les gens ne sont pas conscients, il n'y a pas forcément de respect des gestes barrières. J'ai peur pour mes proches. Quoi qu'il en soit, je ne profiterai pas si je partais, donc je partirai certainement un peu plus tard.
Inès, qui a défaut de partir, a décidé de répondre à l'appel aux dons lancé par les autorités tunisiennes pour venir en aide au système hospitalier.
La France demande au Liban de désigner un Premier ministre dans les plus brefs délais. Requête du Quai d'Orsay après la décision du Premier ministre libanais Saad Hariri qui a renoncé hier soir à former un gouvernement. Paris organisera une nouvelle conférence sur le Liban le 4 août prochain. La lutte se poursuit entre le régime et les talibans en Afghanistan. Un photographe de l'agence Reuters a été tué alors qu'il couvrait ses combats près d'un poste frontière avec le Pakistan. L'Indien Danish Siddiqui était lauréat du prix Pulitzer et travaillait pour Reuters depuis 2010. En Russie, un avion disparu, devenu soudain invisible sur les radars ce matin alors qu'il survolait la Sibérie. 13 personnes au moins étaient à bord, on n'en sait pas plus pour le moment. A-t-on enfin la preuve de l'interférence du président russe Poutine dans l'élection américaine pour pousser le républicain Donald Trump? En tout cas, Christian Chéneau, les documents révélés par le quotidien britannique Le Guardian vont dans ce sens, avec quelques précautions tout de même.
Le dossier secret que s'est procuré Le Guardian porte la référence 3204 VD. rédigé en cyrillique et daté du 22 janvier 2016, il est signé par Vladimir Poutine et aurait été rédigé à l'issue d'une réunion du Conseil national de sécurité russe, affirme le journal britannique. Les documents dressent le portrait psychologique de Donald Trump, qui est alors candidat à la présidentielle américaine. Le milliardaire y est décrit comme un personnage impulsif, mentalement instable et déséquilibré, souffrant d'un complexe d'infériorité. On trouve aussi la confirmation que le Kremlin dispose d'éléments compromettants récoltés lors d'une visite non officielle de Donald Trump à Moscou. Mais surtout, selon le Guardian, ce dossier secret apporterait la preuve que Vladimir Poutine aurait ordonné à ses services de renseignement de tout faire pour favoriser l'élection de l'homme d'affaires à la Maison-Blanche, notamment en disséminant des virus médiatiques sur les réseaux sociaux. À Moscou, on qualifie ces révélations de mauvais roman. Quant à Donald Trump, il a réagi par sa porte-parole sur Twitter. C'est dégoûtant, fake news, fausse nouvelle, c'est de la fiction. Personne n'a été plus dur que moi avec la Russie.
Retour en France, précisément dans les Landes, pour la 19e étape du Tour de France. Le Slovène Pogacar toujours en jaune après sa 3e victoire d'étape hier. Aujourd'hui, 207 km sur du plat, surtout entre Mourinx et Libourne. Bonjour Nicolas Perronnet.
Bonjour.
Le légendaire Eddy Merckx a donné le départ de l'étape ce matin à Mourinx et il a une histoire très particulière avec cette commune des Pyrénées-Atlantiques.
Ah oui, avant de retrouver la plaine, le Tour, effectivement, s'est offert une petite plongée dans l'histoire ce matin. Eddy Merckx de retour sur l'un des lieux qui a forgé sa légende. Petit clin d'œil dans le vélodrome qui porte son nom, Mourinx, où il s'est imposé il y a 52 ans. C'était le 15 juillet 69, victoire entrée au Panthéon du cyclisme après 140 km en solitaire depuis le col du Tourmalet. Eddy Merckx avait levé les bras ce jour-là avec 8 minutes d'avance avant de remporter le premier de ces 5 tours, l'un de ses plus beaux souvenirs sur un vélo, comme il l'a rappelé ce matin.
Bah, c'est un grand plaisir, et puis c'est une grande fierté également, parce que j'ai quand même fait un exploit ici en 69, et ça reste quand même gravé dans ma mémoire. Bien sûr, c'est longtemps, mais enfin, ça ne s'oublie pas, avec le maillot jaune sous les épaules, faire une échappée de 140 km, je pense que je peux en être fier. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, hein, donc... Pour moi, c'est un très grand souvenir. Et puis le vélodrome qui porte mon nom, je suis venu il y a 15 ans pour l'inauguration du vélodrome. Donc voilà, Mourinx-Villeneuve reste une ville qui reste gravée dans ma mémoire.
Et l'image du jour, lorsque le cannibale en a croisé un autre sur la ligne de départ, l'accolade entre Eddy Merckx et Mark Cavendish, 34 victoires chacun sur le tour. Le Britannique pourrait d'ailleurs s'octroyer seul le record aujourd'hui avec son maillot vert, lui qui a déjà remporté 4 étapes depuis Brest. Il est le grand favori de cette journée qui, après les Pyrénées, s'achèvera par un sprint tout à l'heure à Libourne. Pour l'instant, 6 hommes en tête échappés, dont 2 Français et un peloton pointé à un peu moins de 4 minutes.
Nicolas Perronnet en direct du Tour de France avec les moyens techniques de Jean-André Giannichini. Y aurait-il une malédiction sur les JO de Tokyo ? Un haltérophile ougandais a disparu ce matin à Osaka. Il ne s'est pas présenté à son test de dépistage anti-Covid. La Covid, plus grosse ombre sur ces Jeux Olympiques. Ils ouvrent dans une semaine tout juste sans public, sans festivités, avec des athlètes confinés. Alors dans quel état d'esprit sont-ils, ces athlètes ? Ils se sont confiés à Marine Clette.
Yohann Diniz n'est pas encore parti pour le Japon. Le spécialiste français de marche athlétique est actuellement au Portugal pour s'entraîner. Mais entre 2 séances, il faut mettre le pied dans les papiers.
Tous les jours, on reçoit des formulaires et des papiers à remplir parce que tous les jours, il y a un tas d'administratifs à faire là, pour entrer au Japon. Par exemple, tous les jours, on doit aussi remplir les courbes de température. Enfin voilà, il y a plein de choses qui viennent un petit peu changer le quotidien. Quoi.
À Mont-Saint-Martin, dans le Grand Est, le karatéka Steven Dacosta est formel. Crise sanitaire ou non, le champion du monde en titre va à Tokyo pour gagner.
C'est un peu amer parce que malheureusement, la crise sanitaire, elle enlève le goût de pas mal de choses. Après, forcément, ça reste les Jeux. Puis de toute façon, j'ai jamais vécu les autres, donc moi, ça me changera pas grand-chose. J'y vais pour la même chose, en tout cas. Bah alors, hein, bien sûr.
Les handballeurs, eux, sont arrivés au Japon il y a 2 jours. Pour le moment, c'est le décalage horaire qui est le plus compliqué à gérer, avoue Ludovic Fabregas.
C'est vrai que les nuits ont été un peu courtes. C'est pas forcément évident de gérer un décalage horaire aussi important parce qu'il y a quand même 7 heures d'écart. Donc le corps a besoin de s'habituer. Mais sinon, de manière générale, tout le monde va bien et je pense qu'on va monter en intensité sur les prochains jours.
Les joueurs sont confinés dans leur hôtel, mais entre les 2 entraînements par jour et le soleil qui se couche à 19h, il n'y a pas vraiment de quoi trouver le temps long.
Lui a débarqué sur le tarmac italien ce matin. Le footballeur et attaquant français Olivier Giroud doit signer pour 2 ans avec l'AC Milan. Il a dû en boire du lait, Olivier Giroud, pour être en bonne santé et arriver à ce niveau. Le lait pourtant victime de désamour ces jours-ci. La faute à la fin des confinements, figurez-vous. La consommation avait augmenté avec nos envies de pâtisserie et nos longs petits déjeuners. Mais elle a chuté au mois d'avril de 24%, Laurent Kramer.
Et oui, c'est la fin d'une parenthèse enchantée en quelque sorte. Si les produits laitiers ont été plébiscités par les Français avec des ventes records pendant le confinement pour fabriquer des gâteaux, des crêpes ou des yaourts maison, la consommation de lait depuis la fin du confinement a donc de nouveau décroché. Les professionnels s'inquiètent, les prix de vente en magasin et les prix d'achat pour les éleveurs plafonnent, alors que dans le même temps, les coûts des matières premières ont augmenté depuis la crise sanitaire. L'origine française du lait, avec un étiquetage obligatoire pour informer les consommateurs, n'est plus obligatoire précisément depuis le printemps. Les éleveurs redoutent donc de voir les industriels comme Lactalis importer du lait en poudre de Nouvelle-Zélande par exemple à des prix planchers pour les incorporer ensuite dans des produits transformés. Sans revalorisation du prix d'achat par les industriels et sans reprise de la consommation, la filière laitière redoute de voir les éleveurs français décrocher un à un, faute de rentabilité et de repreneurs pour leur exploitation.
Communiquer avec WhatsApp sans dépendre de son téléphone portable, c'est impossible aujourd'hui, mais ce serait bien utile en cas de panne de batterie par exemple. Eh bien, l'application du groupe Facebook lance des essais dans ce sens. On aurait donc accès à l'appli, à WhatsApp et toutes ces données par exemple sur un ordinateur ou une tablette, même si notre téléphone est éteint. Communiquer avec d'autres objets que le téléphone, mais utiliser ce même téléphone pour de vrais films. Des apprentis cinéastes ont gravi hier les marches du Palais des Festivals à Cannes. Les lauréats du concours Moteur qui œuvre pour l'égalité des chances. Ils ont tous gagné en filmant avec leur iPhone, leur Samsung ou leur Huawei. Yann Gallic les a rencontrés pour France Inter.
Ils ont reçu leur récompense des mains de Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes. Ces jeunes de 14 à 22 ans ont été sélectionnés parmi plus de 400 candidats qui devaient faire une vidéo d'une minute 30 avec leur smartphone sur un personnage qui les inspire. Barka, une jeune étudiante de la banlieue lyonnaise, a choisi de filmer son père, immigré tunisien, qui a travaillé toute sa vie comme maçon.
Les anciens comme mon papa, il a construit la France. Et il n'est pas forcément reconnu, donc pour moi c'est un héros et toutes les personnes comme ça sont des héros de notre quotidien, en fait, de tous les jours.
Est-ce que votre papa a vu le film ?
Oui, il a vu. Il était très fier. C'est une grande fierté dans le sens où je pensais jamais que j'allais réussir à quoi que ce soit dans ma vie. Et puis là, on a juste eu besoin de notre smartphone et le tour était joué. Et au final, on se retrouve au Festival de Cannes, donc c'est splendide.
Raled fait également partie des lauréats. D'origine syrienne, ce lycéen est arrivé en France il y a 5 ans.
Mon film, il parle tout simplement sur la liberté d'expression, surtout la guerre en Syrie. Nous, on a fait un long trajet pour arriver en France. J'ai passé un long chemin. Je pense que je suis en train de vivre mon rêve et petit à petit réaliser mon rêve, franchement magnifique.
Quand il vivait en Syrie, Raled voulait être footballeur. Aujourd'hui, il rêve de cinéma et espère devenir un jour acteur ou réalisateur.
Festival de Cannes suite est presque fin. On retrouve Laurent Delmas un peu avant 14h pour sa chronique météo cannoise de l'Italie et de l'amour au programme. Et puis les stars du petit écran, bientôt héros de nos consoles. La plateforme Netflix recrute un responsable jeu vidéo. L'objectif, c'est donc de se lancer dans cette industrie. Pourquoi pas avec des personnages issus des fictions Netflix. On a hâte de pouvoir diriger avec nos manettes les catcheuses de la série Glow, les ados de Stranger Things ou même la reine d'Angleterre dans The Crown. Allez, c'est encore un temps à rester chez soi devant un écran. La météo de ce vendredi 16 juillet.
La météo avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Encore perturbé à l'est.
Oui, on a encore des averses dans l'est, en effet, plus nombreuses et parfois orageuses de l'est de la Lorraine et de l'Alsace jusqu'aux Alpes. Soyez prudents, les crues se propagent sur le nord et sur l'est. Les services de Vigicru maintiennent 11 départements en vigilance orange. Il s'agit du département du Nord, l'Aisne, les Ardennes, la Marne, la Meuse, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, le Doubs, la Saône-et-Loire et l'Ain. Donc soyez vraiment très prudents dans ces secteurs. Plus à l'ouest, ça s'améliore, des éclaircies au menu. En Méditerranée, toujours du soleil et du vent, mais avec des averses orageuses des Alpes du Sud à la Corse. Pour les températures, petite hausse. Marion comptait 20 à 23 degrés près de la Manche et dans l'Est, 23 à 27 ailleurs, jusqu'à 31 degrés en Méditerranée. Et puis bonne nouvelle pour le week-end, enfin un temps plus estival.
Merci Élodie Callac de Météo France. On va en profiter de ce temps estival. Dans un instant, on parle randonnée avec nos invités. Vos questions, vos témoignages, 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter.
France Inter aime
Bergman Island, le nouveau film de Mia Hansen-Love, en compétition officielle au Festival de Cannes.
I want to be with you. I never mentioned you to my girlfriend, but she's jealous of you.
Un couple de cinéastes s'installe pour écrire sur l'île suédoise de Faro où vécut Bergman. À mesure que leurs scénarios respectifs avancent, la frontière entre la fiction et la réalité se brouille. Bergman Island, avec Vicky Krieps, Tim Roth, Mia Wasikowska et Anders Danielsson-Lee, actuellement au cinéma. Un film France Inter.
Il est 13h30 sur France Inter.
France Inter. Le 13-14. Marion Loup.
Et vous avez un bon rythme, hein ?
Ouais, il y a du mollet. Moi.
Je vais venir l'année dernière, puis avec le Covid, ça a été annulé.
On a tous été un peu enfermés chez nous. Mais là, on commence à revoir un peu de lumière.
C'est l'aventure, c'est aussi un petit peu le dépassement de soi, quoi.
Ça monte. J'ai mal au genou, donc on va voir.
Ah. Je m'attendais pas à ça, hein, c'est quand même dur.
Mais c'est tellement fantastique au niveau des paysages.
Bonne journée.
Ça veut dire bonne journée. Allez.
Un extrait du reportage de notre confrère de France Info, Benjamin Ely, sur la star des sentiers de randonnée français, le GR20. La randonnée, c'est un classique de l'été, le loisir en vogue, mais cette année, c'est un peu particulier. Les sites internet de rando voient leur nombre de clics exploser, les livres se vendent par milliers, les sentiers n'ont jamais été aussi fréquentés. Il faut dire que sur ces chemins, au grand air, pas besoin de masque ni de passe sanitaire. La randonnée, nouveau loisir en vogue. Pour en parler avec nous, Brigitte Soulary, présidente de la Fédération française de randonnée. Bonjour.
Bonjour à vous.
Et Didier Réau, président du parc national des Calanques dans les Bouches-du-Rhône, qui devrait nous rejoindre dans les toutes prochaines minutes. On va commencer avec vous, Brigitte Soulary. Cet engouement pour la randonnée, il se mesure réellement ?
Alors évidemment, nous n'avons pas de compteur sur les sentiers, mais nous pouvons avoir des indices indirects avec la fréquentation de nos sites internet et aussi l'achat des topos et des publications. Donc nous avons une explosion de vente des topo-guides. Nous avons 230 topo-guides différents sur toutes les régions françaises. Et
mais c'est de quelle ampleur ? C'est quoi ? C'est 100% de plus ?
Nous avons une augmentation des ventes en 2020, en 2021 de plus 90% par rapport à 2020, qui était déjà une année exceptionnelle avec plus 40% par rapport à 2019.
Didier Réau, bonjour.
Bonjour.
Vous présidez le parc national des Calanques. Vous avez aussi observé cet engouement pour la randonnée ?
Alors pour la randonnée, puis tous les sports de nature, hein, évidemment. C'est une croissance qui existe depuis 3 ou 4 ans maintenant, hein, très très clairement. Et on l'a clairement constaté l'année dernière avec la crise sanitaire où il n'y avait rien d'ouvert nulle part quasiment. Et seuls les espaces naturels, que ce soit dans les Calanques ou ailleurs en France, étaient ouverts et ont accueilli beaucoup de randonneurs et beaucoup de gens qui voulaient profiter de la nature.
Brigitte Soulary, on parlait à l'instant des Calanques, mais finalement la progression, l'afflux de randonneurs, il se fait où ? Il se fait sur des sentiers, des chemins classiques, comme le GR20 dont on parlait tout à l'heure, ou il se fait sur d'autres sentiers ?
Il se fait un petit peu partout. Nos meilleures ventes cette année, c'est le chemin de Stevenson, bien sûr le GR20, mais aussi le GR34 qui fait tout le tour de la Bretagne. La côte de Granit Rose, la côte d'Émeraude, les Abers, et puis le sentier de Saint-Jacques qui est un grand classique, GR65. Mais il y a aussi d'autres sentiers qui sont en très belle progression. Par exemple, le GR400 qui suit les volcans et les lacs d'Auvergne, le tour du Mont-Blanc, le tour du Queyras, le tour du Cotentin et le tour de l'Oisan et des Écrins. Donc en fait, un peu la montagne, mais aussi la campagne et le littoral. Tous les secteurs sont concernés.
Comment vous l'expliquez, vous, ce succès de la randonnée ?
Alors, si vous voulez, c'est pas nouveau quand même, parce que depuis 10 ans, on note une grande progression de l'engouement pour la randonnée pédestre. Et dans les statistiques, en 2016 et 2017, la randonnée était le sport qui était en plus grande progression depuis 10 ans. Nous avons 2 à 3% d'augmentation par an et nous avons 240 000 licenciés, mais on estime à 16 à 18 millions de randonneurs qui sont pas forcément dans les clubs, qui sont individuels. Donc il y a une augmentation de ces deux types de publics, si vous voulez.
Diréo, vous parliez d'une tendance qui durait depuis aussi quelques années. Est-ce que malgré tout vous observez dans les Calanques un effet Covid ?
Alors, il y a un effet Covid évidemment depuis l'année dernière, puisque on avait une fréquentation auparavant de 2 millions de visiteurs sur les Calanques. Et l'année dernière, on l'a estimé à 3 millions en faisant des comptages estimatifs qui, évidemment, ont permis d'avoir ces données-là. Ce n'est pas seulement des randonneurs, hein, bien entendu. Il y a aussi tout un tas de personnes qui veulent seulement se promener, aller à la mer et puis aussi profiter des sports de plongée, de canoë-kayak, etc. Donc on a toutes ces activités de sport de nature qui sont très demandées et très recherchées sur les Calanques.
Alors c'est quoi ? On fuit l'urbanisation, on fuit le stress, c'est ça ?
Bah, en plus, le parc national des Calanques est au cœur de la métropole ex-Marseille, hein, donc on est au cœur de 1 800 000 habitants. Il est vrai que 60% de ceux qui fréquentent le parc national des Calanques viennent de la région sud et 80% de la métropole ex-Marseille. Donc on a une fréquentation, somme toute, assez locale. Vu la proximité des espaces de nature, des zones urbanisées, est facile d'accès.
La nature au cœur de la ville, en somme.
Et en plus, il a l'aspect marin, donc on peut évidemment se promener, pratiquer un sport et piquer une tête très rapidement quand on en a assez.
Brigitte Soulary, qui fait de la randonnée ? De plus en plus de jeunes, peut-être ?
Alors, les jeunes randonnent, oui, mais ils randonnent le plus souvent en tant qu'individuels sur de la randonnée itinérante ou sur des randonnées un peu sportives, comme la marche d'endurance, la marche nordique, le longe-côte marche aquatique et la raquette à neige. Dans les clubs, on a plutôt un public un peu plus âgé et plus féminin que le randonneur individuel. Donc, le randonneur individuel, en moyenne, c'est 60% d'hommes et qui ont moins de 40, dont plus de la moitié a moins de 44 ans. Par contre, pour le randonneur en club, c'est plus des femmes, 60% de femmes et qui sont plutôt autour de la soixantaine.
Et la conséquence de ce succès, la rançon du succès, si j'ose dire, c'est que les sentiers sont presque un peu surpeuplés, hein, Brigitte Soulary.
Ils sont pas, on peut pas dire, il y a à part peut-être des sentiers comme les Calanques ou le Tour du Mont Blanc qui connaissent un engouement extrêmement important. On peut pas vraiment parler de surpeuplement parce qu'il y a énormément de possibilités de randonnée. Il y a énormément de sentiers, que ce soit des GR, donc des sentiers de grande randonnée, ou les PR pour des promenades randonnées plus familiales et plus petites en boucle. Mais effectivement, ils sont de plus en plus, utilisés et donc, il faut quand même respecter certaines règles pour respecter l'environnement et qu'on peut dire qu'on croise un peu plus de monde, qu'on perd en tranquillité. Et quand on veut faire de l'itinérance, il y a peut-être des problèmes d'hébergement. Et si on n'a pas réservé, ben, on risque de se retrouver sans pouvoir trouver un lieu d'accueil pour dormir si on n'a pas préparé sa randonnée un peu à l'avance.
Au sujet des conséquences sur l'environnement dont vous parliez un peu plus tôt, on a une question de Julien qui est au Standard de France Inter. Bonjour Julien, bienvenue.
Bonjour, oui, j'aimerais bien faire un petit témoignage face à ce que moi personnellement rencontre autour des sentiers que je côtoie assez régulièrement. Ce que j'aimerais vraiment dire en fait, c'est que j'ai l'impression que les gens, lorsqu'ils se retrouvent face à eux-mêmes, ils n'ont totalement pas conscience de ce qu'ils peuvent faire. C'est-à-dire que j'ai que 20 ans, mais je sais pas l'état dans lequel était l'environnement avant, mais je me rends compte que le nombre de plastiques qu'on peut retrouver sur les bas-côtés quand on se promène. J'ai un grand jardin, je récolte beaucoup de foin sur les bas-côtés. Vous pouvez pas imaginer le nombre de masques, de plastiques, de différentes époques, de différentes décompositions qu'on retrouve partout. Et ce, de manière très importante. Je me pose la question vraiment si les gens, peut-être lorsqu'ils sont devant une télévision ou devant pour un témoignage, quand on demande à un étudiant, il dit on prend conscience de ci ou ça.
De l'environnement, vous voulez dire.
Mais de l'environnement et de la protection de l'environnement, le fait qu'il faille faire trier, faire ses poubelles.
Alors, je précise.
Face à eux-mêmes, je vois pas comment est-ce qu'on pourrait les rendre vraiment...
responsables.
Voilà, responsable. La question, exactement, oui, c'est ça.
Merci Julien pour votre question. Je précise que vous appelez de Dordogne, mais cette question, elle est valable aussi pour le parc des Calanques, Didier Réau.
Ah, bien sûr, et beaucoup, le témoignage de Julien est révélateur, hein. Beaucoup de gens qui fréquentent les espaces naturels n'ont pas conscience qu'ils ont une responsabilité. Certes, c'est un espace de liberté, le site naturel, les Calanques sont un espace de liberté, mais la liberté ne va pas sans responsabilité individuelle. Et cette responsabilité individuelle, elle passe par des gestes qui ne sont plus des comportements urbains. Par exemple, nous, on incite les gens à laisser leur voiture bien en amont des fonds de Calanques, à rapporter leurs déchets, en leur expliquant qu'il n'y a pas de poubelle, à bien s'équiper aussi, parce que on retrouve beaucoup de touristes ou de gens qui vont randonner, si je puis dire, ou qui vont marcher pendant une heure et demie dans la rocaille avec des tongs ou des sandales, sans eau, sans protection pour les enfants. Et donc on est dans des visites qui ne sont pas préparées. Au contraire des randonneurs, comme le disait Madame Soulary, qui eux vont préparer leur randonnée, qui vont voir par où ils vont passer, à quelle heure ils vont le faire, où est-ce qu'ils vont trouver de l'hébergement, etc. La visite, j'allais dire intuitive, c'est-à-dire qui on dit voilà, je vais aller, tiens, on va aller dans les Calanques, eh bien elle est parfois dévastatrice pour la nature, parce que évidemment on ne laisse pas son comportement urbain à la porte des Calanques, et nous l'incitons dans nos communications, ce qu'on a appelé le démarketing, c'est en fait expliquer l'expérience visiteur et comment finalement on doit se comporter dans ce patrimoine naturel.
Et à ce sujet, justement, question de Jacques sur l'application France Inter. J'ai lu que le parc des Calanques voulait envoyer ses messages anti-promotionnels pour éviter que trop de monde ne vienne les visiter. En clair, Jacques demande, est-ce qu'il va falloir interdire les Calanques, Didier Réau?
Non, on ne souhaite pas les interdire. Au contraire, le visiteur est le bienvenu. Tous les visiteurs sont les bienvenus, mais pas dans n'importe quelle condition. Encore une fois, il faut abandonner son comportement urbain où on a tout de suite à tout instant et profiter de cette nature qui nous offre un paysage formidable, une sérénité, une tranquillité, et qui nécessite évidemment d'avoir un sas, j'allais dire, de décompression entre la ville et la nature. Il y a certains sites qui sont effectivement surfréquentés, trop surfréquentés, si je peux insister ainsi, et que nous allons évidemment contingenter à partir de l'année prochaine, notamment la Calanque de Fugiton, qui accueille parfois 2500 personnes qui là viennent soit se détendre, soit se baigner, mais aussi parfois faire la fête avec des enceintes connectées. Et là, c'est pas le lieu pour faire ça. C'est pas le dernier rooftop de Marseille, la Calanque de Fugiton. Et donc, on va diviser par 5 ce chiffre de 2500 pour faire une moyenne de 500 visiteurs par jour, avec évidemment un permis d'accéder qui se fera par une application.
Et sur ce changement de comportement dans la nature, est-ce que vous infligez des sanctions aux personnes qui enfreignent ou qui laisseraient un sac en plastique sur le bord du chemin, par exemple?
Alors oui, parce que nos agents sont assermentés sur la police de l'environnement, et donc laisser un déchet dans des sites classés en cœur de parc ou des sites naturels, c'est une infraction à l'environnement. Même chose pour la personne qui fume, qui bivouac, qui fait un barbecue, c'est arrivé également en plein été, sans se préoccuper du danger qu'il fait courir aux autres et à la nature, eh bien, il est susceptible de prendre une amende, effectivement.
Brigitte Soulary, une autre conséquence possible de l'afflux de randonneurs un petit peu novices, c'est les accidents, les chutes, parfois dramatiques, hein. Il y a eu plusieurs morts l'été dernier, notamment dans les Pyrénées. Est-ce qu'il y a un manque d'entretien physique qui rend les accidents plus fréquents, peut-être, chez les randonneurs novices?
Alors, il est certain que pour randonner, surtout si on randonne dans des sites montagneux ou des sites un peu plus difficiles, évidemment, il faut une préparation physique et il faut un bon équipement. Donc, nous, à la fédération, on essaye de donner des conseils d'équipement, d'un bon chaussage.
J'allais vous poser la question, la liste de l'équipement, justement.
Ben, écoutez, ça, on les retrouve sur notre site. En tout cas, le principal, c'est un bon chaussage et puis des protections anti-pluie, et anti-soleil, un minimum d'eau et un minimum de ravitaillement. Et bien entendu, nous avons une charte du randonneur qui explique le respect de la nature, qui demande aux gens de ne rien laisser sur les chemins, de remporter leurs déchets et de ne pas faire de feu dans les endroits qui pourraient être dangereux, de bien rester sur le sentier et de pas aller en dehors pour pas abîmer la nature, pour pas abîmer, pour pas ennuyer la nidification à certaines périodes, enfin, etc. Donc tout ça, c'est sur notre charte de randonneur et sur les conseils qu'on peut donner, qu'on peut trouver sur nos sites internet.
Brigitte Soulary, présidente de la Fédération française de randonnée. Merci à vous, Didier Réau, président du Parc national des Calanques. Merci également. Merci à tous les deux et bonne route. Et à propos de route, au téléphone sonne ce soir. En ce jour de grand départ, on parle circulation et partage de la voie publique entre auto, moto, vélo et trottinette. Même numéro 01 45 24 7000.
France Inter, le 13-14.
Il est 13h44. À suivre sur France Inter, suite et fin de notre feuilleton aux côtés de la Brigade Fluviale de Paris. Une ambiance bien différente, par exemple, d'un commissariat du 93 et les fonctionnaires apprécient, vous verrez. À venir aussi le clap de fin du Festival de Cannes. Bonjour Laurent Delmas, météo intranquille.
Mais oui, intranquille, c'est le mot, et le superbe film du jour, plus un maestro italien, et pour finir en beauté, un hymne aux amours, Marion.
On a hâte. Rendez-vous juste avant 14h, mais tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Marion.
À votre micro pour votre 200e et ultime chronique de la saison, l'auteur et acteur Alexis Michalik, dont on peut voir la pièce Une histoire d'amour, salle de la Scala à Paris.
Et c'est d'abord l'histoire d'amour de deux jeunes femmes, cette pièce. Deux jeunes femmes qui, grâce à un donneur anonyme, auront un enfant, mais la première s'enfuit juste avant la naissance. Il est donc à la fois question d'amour et de rupture dans ce spectacle pour lequel Alexis Michalik a reçu l'an dernier un Molière de la mise en scène.
C'est une histoire déjà qui est née d'une chanson de Rapture, It Takes Time to Be a Man. Et j'entends cette chanson et j'ai tout de suite dans la tête une scène de fin d'une pièce. Et je me dis, ça pourrait être une chouette scène de fin, mais je n'ai pas la pièce. Et puis, le temps passe et j'y repense de temps en temps, comme souvent avec les histoires. Et puis à un moment, je me retrouve à peu près avec une trame correcte. Et quelques temps plus tard, on va dire un an plus tard, je traverse une rupture assez douloureuse. Et je me retrouve avec toute cette tristesse à me dire qu'est-ce que je fais de ça, quoi. Et j'étais en train d'écrire à ce moment-là une comédie très légère. Et tout à coup, j'ai plus trop l'inspiration pour écrire cette comédie très légère. Et j'en parle un peu autour de moi. Et mes amis me disent, mais qu'est-ce que t'as d'autre à raconter? Et je dis, bah j'ai cette histoire à laquelle je pensais. Et ils me disent, bah il faut que tu la fasses. Et donc j'écris cette histoire un peu comme un coup de fusil en quelques jours. Et en même temps, je suis un peu en train de me reconstruire et je rencontre une jeune fille qui va devenir une belle histoire d'amour, mais qui à ce moment-là n'est que le début. Et je lui parle de cette pièce et je lui dis, voilà, c'est une pièce qui va parler de l'amour, mais surtout de la fin de l'amour et comment on s'en remet. Est-ce que l'amour peut se terminer? Est-ce qu'il subsiste? Et elle me dit, est-ce que tu connais Et pourtant, de Charles Aznavour? Et je dis, non, pas du tout. Elle me dit, bah, tu devrais l'écouter parce que je pense que ça va te parler. Et j'ai écouté la chanson et je me suis dit, bon, bah, il faut qu'elle soit dans la pièce.
Un bon matin, je sais que je m'éveillerai différemment de tous les autres jours, et mon cœur délivré enfin de notre amour. Et pourtant, sans un remords, sans un regret, je partirai droit devant moi, sans espoir de retour. Loin des yeux, loin du cœur, j'oublierai pour toujours, et ton corps, et tes bras, et ta voix, mon amour.
Ce titre, Frédéric, on l'entend donc dans la pièce d'Alexis Michalik.
C'est même le tout début du spectacle, les cinq comédiens l'interprètent face au public. Une chanson sortie en 1963, paroles Charles Aznavour, musique Georges Garvarentz, analyse de texte Alexis Michalik.
Et pourtant, c'est le symbole de tout le paradoxe de l'amour et de l'amour qui se termine. C'est le paradoxe entre la souffrance qu'on éprouve à chaque fois qu'on aime, puisqu'à un moment ou à un autre, cette histoire va nous faire souffrir, enfin, en général. Et pourtant, on y retourne. Et pourtant, on le recherche. Donc, cette chanson, elle est très belle parce qu'elle parle de la tristesse d'une séparation et en même temps de cette persistance de l'amour. Elle nous dit que quand on a vécu une histoire d'amour, à la fois, on va passer à autre chose et à la fois, cette histoire, elle est ancrée en nous, elle sera toujours là. C'est marrant, les blessures de rupture ne partent qu'avec le temps. On peut faire ce qu'on veut, on peut se noyer dans le travail, on peut se noyer dans les rencontres, on peut choisir de ne voir plus personne. Mais le seul baume pour réparer les blessures du cœur, c'est le temps. Et c'est ce qu'il raconte. Il se dit, un jour, je vais m'éveiller différemment. Et pourtant, j'aurai toujours quelque chose qui me rappellera à toi, quoi. C'est joli.
Je marcherai vers d'autres cieux, d'autres pays, en oubliant ta cruelle froideur. Les mains pleines d'amour, j'offrirai au bonheur, et les jours, et les nuits, et la vie de mon cœur. Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi, et pourtant, pourtant, je n'aime que toi, et pourtant, pourtant, je n'aime que toi, et pourtant.
Vous vous aimez encore les personnes dont vous vous êtes séparés?
Bien sûr, moi j'ai toujours quelque chose où je me dis si je les ai aimés, il y a une raison. Jamais je me retrouve à tout d'un coup détester quelqu'un avec qui j'ai été. Et cette chanson, elle est devenue une chanson un peu emblématique pour nous en tout cas, quelque chose de très cher à notre cœur et pour tous les spectateurs qui ont vu la pièce parce qu'on ouvre avec. Et puis on s'est rendu compte qu'à la fin, il y avait comme un petit manque, que les spectateurs disaient ah, on aimerait bien que ça termine par la chanson aussi. Donc on a mis en place un petit truc un peu superstitieux, mais quand le public se lève, on chante la chanson de nouveau.
Il se lève souvent.
Suffisamment pour qu'on la chante.
Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi.
Et pourtant, de Charles Aznavour, c'était donc le choix d'Alexis Michalik, Frédéric.
Alexis Michalik, dont on peut voir la pièce Une histoire d'amour jusqu'au 21 août à la Scala à Paris.
Allez, on vous aime Frédéric, et pourtant il faut vous laisser partir en vacances. On vous retrouve pour une deuxième saison de C'est une chanson à partir du 30 août. (Rire) 13h50 sur France Inter, c'est l'heure de notre feuilleton. Une semaine dans leur vie, dernière escale avec les policiers de la brigade fluviale de la préfecture de police de Paris. Ces policiers qui surveillent la Seine et les canaux travaillent dans un cadre atypique, particulier et ça leur plaît. Ils l'ont confié à Ariane Grissel.
Il y a vraiment de l'entraide. C'est un milieu qui est très particulier. Et quelquefois, quand vous commencez un contrôle... en amont du fleuve, en aval, tout le monde est déjà au courant qu'on contrôle. Ça va vite.
Là, on a des interventions qui sont quand même sympas. On a, il n'y a pas longtemps, une association de pêcheurs et des riverains qui nous signale un cygne qui était bloqué avec un hameçon dans le bec. Donc ben là aussi, j'ai une équipe un peu plus aguerrie en matière de sauvetage de cygnes qui est partie. Et ben ils ont libéré ce bébé cygne qui avait cet hameçon. Et le bébé cygne est parti tout content, tout le monde était content, les riverains, l'association des pêcheurs qui a dénoncé ces mauvaises pratiques de pêcheurs de laisser des hameçons. Ben voilà, le travail est très varié. On a eu aussi quelquefois quelques locataires d'une journée, des chiens tombés de bateaux de mariniers. Donc les chiens sont récupérés, on appelle les mariniers qui viennent les chercher, c'est génial quoi. C'est voilà, ça va au-delà, hein, au-delà de sauvetage quoi. Alors c'est vrai que les policiers, les jeunes recrues qu'on a qui sortent de milieux, en tout cas en banlieue compliquée, qui avaient l'habitude de se faire insulter, ils ont un temps d'adaptation quand ils arrivent ici parce que les gens sont gentils avec eux. La brigade fluviale jouit d'une image d'hommes et de femmes qui sont là pour aider, pour sauver et pour aider.
Je m'appelle André, j'ai 30 ans, je suis un ancien fonctionnaire de police du 93, donc je suis arrivé fraîchement en septembre 2020. J'étais à la Courneuve, donc j'y ai passé 4 ans et demi, une très bonne commune, où on apprend beaucoup, beaucoup de choses, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Mon désir de changer de service est dû à une envie de découvrir un autre milieu professionnel et qui allait bien en fait avec ce que je faisais à côté. Je suis sauveteur aquatique et secouriste et donc la brigade fluviale réunit en fait le côté police et le côté secouriste. J'ai été recruté en tant qu'opérateur de surface. Par exemple, aujourd'hui, je suis dédié à la réception des appels téléphoniques, mais je suis aussi secouriste. Ça veut dire que je compose un équipage de 5 personnes. Donc, il y a un chef d'intervention, un pilote, 2 plongeurs et un secouriste.
On est quai Saint-Bernard, au cœur de Paris. Pas tout à fait la même ambiance qu'on imagine que la Courneuve. Comment est-ce que vous êtes passé de l'un à l'autre ?
Il faut s'adapter, tout simplement. C'est pas la même ambiance générale, parce que ici, on n'a pas affaire à la même catégorie sociale, en fait, tout simplement. C'est complètement différent. C'est une autre approche du métier. Et c'est surtout qu'avec la brigade fluviale, on n'est pas perçu de la même manière, en fait. On n'est pas perçu comme des policiers qui effectuent de la répression. C'est quand on passe, on nous fait coucou. Donc, non, là, il faut, c'est facile de s'adapter parce qu'on travaille dans de meilleures conditions. On est moins sujet à cette pression, en fait. Et on évolue dans un cadre qui est la scène, qui n'est pas donné à tout le monde. Et donc, la brigade fluviale, donc, c'était pas dans mes projets. Et au final, j'y suis très bien.
Une semaine avec la brigade fluviale de la préfecture de police de Paris. Reportage d'Ariane Grissel avec Sandrine Malon. Réalisation Juliette Gou. Un feuilleton à réécouter sur notre site franceinter.fr.
France Inter, le 13-14.
C'est déjà l'heure de la dernière séance à Cannes. Dernière séance pour notre chronique météo avec Laurent Delmas. Alors Laurent, quel temps pour aujourd'hui ?
Eh ben, il pleuviote un peu, figurez-vous. Oui, le temps est un peu à l'orage sur la croisette, mais ça ne va pas durer, j'en suis certain. Côté festival, c'est à vie de tempête cinématographique. Ben, ce dont aucun festivalier ne peut vraiment se plaindre. Avec Les Intranquilles, le talentueux cinéaste belge Joachim Lafosse entre pour la première fois dans le cercle très fermé, hein, de la compétition. Depuis Élève libre et À perdre la raison notamment, on sait combien cet auteur est doué pour transcrire des situations tendues, critiques et sur le fil. Ce film en est une nouvelle illustration et éclatante, avec le portrait d'un artiste peintre, mari et père de famille, plongé au quotidien dans les affres de la bipolarité et d'une bipolarité tumultueuse. Librement inspiré du livre autobiographique du peintre Gérard Garouste et des souvenirs familiaux personnels du cinéaste lui-même, Les Intranquilles séduit d'entrée de jeu par la fièvre qui s'en dégage, transcription cinématographique idéale d'un état psychique aux multiples et surprenantes manifestations. Face à sa femme, face à son jeune fils, le héros du film traverse toutes les phases d'une maladie qui s'en prend tout simplement à son être profond, au plus près de son personnage, comme l'aurait fait un Piala à qui l'on songe souvent en regardant le film. Joachim Lafosse saisit chaque moment, chaque instant de crise, de bonheur aussi, de répit ou de violence, avec la même attention, la même disponibilité et la même sensibilité. Pour parvenir à ses fins, il lui fallait un casting capable de tutoyer les abysses, et c'est bien le cas avec Leïla Bekti et Damien Bonnard, tous deux absolument exceptionnels. Sans oublier le petit garçon qu'incarne à la perfection Gabriel Merz-Chama. Ce portrait d'un artiste en flamme qui clos ou presque, hein, le festival s'impose comme une ultime incandescence avant le palmarès de demain, évidemment.
Et demain soir, justement, le festival rendra hommage aussi à un grand maître du cinéma italien.
Absolument, Marco Bellocchio recevra demain soir, lors de la cérémonie de clôture, une palme d'or, hein, un hommage, une palme d'or pour toute sa carrière. Depuis les années 60 et son film Les Poings dans les Poches, il est en effet l'une des figures marquantes du cinéma italien. Et c'est un hommage cannois d'autant plus mérité et essentiel qu'il s'agit tout simplement de rattraper une injustice majeure. Bellocchio, souvent présent en compétition et dans d'autres sélections, n'a obtenu aucun prix ici à ce jour. On découvrira également aujourd'hui, et hors compétition, du coup, son nouveau film, un documentaire, cette fois intitulé « Marx ne peut plus attendre » et consacré à son frère jumeau qui s'est suicidé en 1968. Et alors, puisqu'on parle de récompense, sachez Marion que, même si vous ne me le demandez pas...
Si, hein, je vous le demande.
Ah bon, très bien. Ma palme d'or, à moi, ira sans l'ombre d'un doute à l'opéra mélo baroque et fou de Léos Carax, Annette, dont je ne me suis toujours pas remis, et qui, par bonheur, est déjà visible dans toutes les bonnes salles obscures de France et de la Croisette, qu'on se le dise.
Une dernière chanson pour la route, Laurent ?
Allez, retour aux Intranquilles, le beau film de Joachim Lafosse, donc pour finir en beauté et en chanson, avec ce superbe titre de Jean Ferrat, « Mes amours », qu'on entend dans une scène de bonheur familial.
Mes amours, vous qui me savez des vôtres, vous qui me savez si pauvre et si nu pourtant. Mes amours, la vie n'est qu'une chimère, si l'amour n'y vient pas faire sa ronde d'oiseaux géants.
Laurent Delmas, merci pour toutes ces journées de météo cannoise. Rendez-vous demain avec vous, demain soir, 19h15, sur Inter en direct de Cannes pour la cérémonie de clôture et le palmarès présenté par vous et Christine Masson avec commentaires, invités en direct, réactions, extraits et beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions aussi. Beaucoup d'émotions aussi pour dire merci à la belle équipe du 13-14 cette semaine. Sarah Guibaudot, assistée d'Alexandra Brouillet, Estelle Schmitt avec Benjamin Ducy, Carline Desrosiers, Sylvain Lesage et Nicolas Sabat. Grand merci aussi à Loïc Frapsos, Fabrice Desmas, Tristan Gratalon et Clément Berman à la console. Merci enfin aux standardistes de Radio France, Matteo Grossi et Juliette Douer. À suivre, grand bien vous fasse. Ali Rébéi vous propose de réécouter les meilleures émissions de l'année aujourd'hui. Comment Descartes peut vous aider dans la vie? Restez à l'écoute.